Session de théologie, l'Église, sacrement de salut, par le Père Philippe à Rimont, le 28 octobre 95, premier cours.
Vous êtes en pleine session et j'arrive quand le train est déjà parti, n'est-ce pas ? Alors, je ne veux pas vous faire manquer de station. Vous essayez, non pas de raccrocher, mais de compléter, d'achever. Pour comprendre parfaitement ce que Vatican II nous dit sur le mystère de l'Église, un passage très beau du reste, Lumen Gentium, où il reprend de fait ce qui est dit dans la Révélation, en essayant de donner un certain ordre. C'est là où je crois que le théologien peut préciser et aider à comprendre ce que la révélation, l'Église, qui, comme disait Paul VI, prend conscience de plus en plus de ce qu'elle est. C'était la première fois, du reste, je crois, que dans les textes pontificaux, on parlait de la conscience de l'Église. Je me souviens qu'à ce moment-là, ça a fait un peu bondir certains théologiens très traditionnels, en disant, oh, c'est tout l'aspect de la féminologie de Paul VI qui est là présent. C'est vrai que l'Église, elle est menée par l'Esprit Saint. Et elle est un vivant. C'est toujours ces deux aspects qu'il faut, je crois, saisir. Elle est menée par l'Esprit Saint. L'Église ne se conduit pas elle-même. Elle est conduite par l'Esprit Saint. Et en même temps, elle est un vivant qui prend conscience de cela et qui répond. Et donc, elle se conduit. Oui, je ne dirais pas que l'Église prend conscience de toute sa richesse si elle se met à se gérer elle-même, qu'on dirait, comme on dirait, dans une sorte de théologie psychologique, gérer sa personnalité. L'Église va gérer sa personnalité. Saint Thomas n'hésite pas de l'Église, n'hésite pas de dire justement que le corps mystique, l'Église, quasi persona, quasi, comme une personne, un quasi, et le Concile Vatican II, quasi, on retrouve le quasi. Comme un sacrement de salut. Ce serait très intéressant à mettre en parallèle les deux. Parce que ça se complète. Ça ne s'oppose pas. À première vue, ça pourrait sembler s'opposer comme une personne unique, comme un sacrement. Un sacrement n'est pas du tout une personne. Un sacrement, c'est un moyen. Or, l'Église est bien plus qu'un moyen. C'est bien plus qu'un moyen de salut. Et pourtant, c'est un moyen de salut. C'est un sacrement. Mais d'une autre manière, il est plus. C'est comme quand on dit que Jésus, dans son incarnation, est un sacrement. Oui, c'est vrai. Puisqu'il manifeste le divin. Mais il est bien plus. Il est fils bien-aimé du Père. Et l'Église est l'épouse de ce Fils bien-aimé. Donc elle est bien plus qu'un sacrement. Alors qu'on dit quasi sacramentum, comme un sacrement. Attention, il faut bien comprendre. Il ne faut pas dire trop vite l'Église est sacrement de salut. Une chose que j'ai beaucoup aimé. C'est dans le livre du Saint-Père, dans son dialogue avec ce journaliste italien. Ce journaliste a tous les toupets comme un Italien par rapport au pape. Ils ont une espèce de familiarité avec le pape que nous n'avons pas. Parce que le pape, il est chez eux. Alors, quand même, je fais partie de la famille. Un toupet monstre posait la question. Très bien, dites un peu, qu'est-ce que vous dites devant cette affirmation des théologiens ? En dehors de l'Église, pas de salut. C'est très beau comme question, même. Je ne ferais pas oser le poser au pape, moi. En dehors de l'Église, pas de salut. Oh. Alors le pape répond admirablement. Peut-être que demain, au terme, je reprendrai le texte, si on a le temps. Le Saint-Père dit, mais quel est le sauveur ? C'est pas l'Église. C'est le Christ qui est sauveur. Alors, sans le Christ, pas de salut, oui. Sans l'Église, pas de salut. Comprenons. Le Christ nous l'a donné. Pour que nous puissions, en quelque sorte, avoir une voie expresse. Je crois que c'est ça, l'Église. C'est la voie expresse. Ça va plus vite. Beaucoup plus vite que ceux qui prennent des petits sentiers, puis voie sans issue. Je commence par le bouddhisme, voie sans issue. Il n'y a pas de salut. Je prends les sectes, voie sans issue. Tout ça sont des caricatures de l'Église. Et elles ne veulent pas être des caricatures, mais ce sont des caricatures quand même. Et puis tout ça que je découvre l'Église. Ah, ça va tellement plus vite, TGV. Tout de suite dans le salut. Et c'est vrai. Quand vous êtes dans l'église, vous êtes rassuré, quoi. Même quelquefois c'est trop dangereux parce qu'on s'endort. Il y a des fauteuils. Et ça roule tout seul. Alors on s'endort. Mais on aboutit quand même au terme. Grâce à Dieu. On appelle vite, vite le prêtre à la fin. Vite, 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 tout arrangé. L'extrême onction, on va y entrer. Alors il y a des assurances comme ça, vous voyez. On prend l'église comme une assurance sur l'éternité. Ça coûte un peu cher. Assistance à la messe tous les dimanches, oui, oui. Ce qu'on fait, c'est régulièrement, oui. Mais c'est une assurance. Ah, c'est pas ça du tout, venez. L'église, c'est ce que le Christ a inventé. Il aurait pu ne pas l'inventer. Il aurait pu très bien ne pas l'inventer. Parce que le Christ suffit. C'est le sauveur. S'il suffit. Mais il l'a inventé pour express. Parce qu'il sait que nous sommes des personnes très distraites. J'aime beaucoup cette Ennéade de Plotin, deuxième siècle après Jésus-Christ, qui dit, mais comment se fais-tu, comment es-tu si distrait ? Il dit ça à ses disciples. Comment es-tu si distrait ? Tu te laisses prendre par toutes les petites fleurs qui sont sur le trajet, et tu oublies que tu as une âme divine qui est apparentée au Dieu. Et tu oublies la contemplation. Alors que c'est la voie directe. Et tu te laisses prendre par toutes les petites fleurs. J'aime beaucoup ça, parce que c'est tellement vrai pour un chrétien. Tu oublies l'essentiel. L'Église rappelle ça. Elle porte un drapeau. Quelquefois, elle porte tellement bien le drapeau, pas l'Église, mais les hommes d'Église. Il faut toujours distinguer les deux. Les hommes d'Église portent tellement bien le drapeau qu'ils disent « Sans moi, pas de salut ». Mais non, c'est pas vrai. Sans le Christ, pas de salut. Et l'Église est toute dépendante. Et c'est très beau de voir comment le Saint-Père fait cette distinction. Voilà. C'est pour montrer que le mystère de l'Église, c'est un mystère. Donc, on ne pourra pas donner de définition d'Église. L'Ancien Testament préfigure, d'une manière admirable, parce que c'est divin. C'est le grand artiste, c'est l'Esprit Saint qui préfigure par les patriarches. Abraham, premier pape, Abraham. Non, pas ça, puisque c'est pas le premier pape, puisqu'il y a Melchisédek. Ah oui, alors ça, tout de suite, il y a la rencontre d'Abraham et Melchisédek, c'est tellement beau ça, tellement étonnant. Il y a quelqu'un en dehors du peuple, béni de Dieu, qu'Abraham bénit. On pourrait dire en dehors du peuple juif, pas de salut. Mais non, Melchisédek, préfiguration d'Église. Et Melchisédek, préfiguration non pas de l'Église, mais du Christ. C'est très étonnant tout ça. Hein. Et c'est très beau, c'est très grand. Parce que ça montre qu'il y a quelque chose qui dépassera toujours ce que nous essaierons de comprendre. On doit essayer de saisir le mystère de l'Église. Alors on voit, avec Vatican II, le peuple. Avec le Synode d'Afrique, la famille. Ah, c'est beau aussi. Peuple et famille. C'est une autre façon d'approcher l'Église. Alors, si vous voulez, puisqu'on a mis comme titre, c'est pas moi qui l'ai mis, mais c'est, on l'a mis comme titre, et on a raison de mettre ça comme titre, j'aurais mis quasi, moi, comme un sacrement de salut. C'est le quasi qui est important. Parce que c'est ça l'Église. Et Vatican II, le Saint-Père, dans sa lettre encyclique, sur la préparation du jubilé d'an 2000, lui aussi fait un examen de conscience du parcours de l'Église pendant ces 2000 ans et un peu plus. On entre dans la préparation du troisième millénaire. Le Saint-Père continue ce que dit Paul VI. L'Église prend conscience de ce qu'elle est. Et vous voyez, nous sommes l'Église. Nous devons prendre conscience de ce qu'est l'Église pendant cette session. Chacun d'entre nous. Le petit parcours depuis notre baptême. C'est vrai. Le petit parcours que nous avons fait. Est-ce qu'on nous avons eu conscience d'appartenir à l'Église? Parce que c'est ça qu'on doit. Le résultat, c'est ça. Est-ce que nous aimons l'Église? Ou est-ce que nous critiquons l'Église? Nous nous laissons prendre par certains journaux qui n'en ratent pas une. Mais ils ne regardent que les déviations du TGV. Alors qu'il y a quand même autre chose, puisqu'on s'en sert régulièrement. Mais quand on s'en sert, on l'oublie. Tout a été bien. Les trajets qu'on n'oublie pas, c'est quand il y a eu une panne. Alors ça, on ne l'oublie pas. On est comme ça. Et pour l'Église, c'est comme ça. Quand il y a un scandale dans l'Église, oh, effrayant, voilà où on est. Et la vie de l'Église. Tous les jours, nous vivons l'Église. On en parle. Le Saint-Père fait cet acte que je trouve merveilleux. Aucun pape n'a fait ça. C'est très étonnant. Prendre conscience du parcours de ces 2000 ans en vue du troisième millénaire. Et le Saint-Père, à ce moment-là, montre que Vatican II est au-delà des 2000 ans. C'est très beau, c'est parce que ça montre très bien que le Saint-Père comprend le parcours de l'Église indépendamment des chiffres officiels. C'est une vision symbolique, le temps. pour l'Église. C'est pas du tout le temps scientifique, d'autres choses, ou philosophique, d'autres choses. Et le Saint-Père considère que Vatican II est déjà préparatoire au troisième millénaire. Donc il est au-delà des 2000 ans. Voilà, ça m'a beaucoup frappé. Et ça jette tout de suite une très grande lumière sur Vatican II. Ce qui fait que les 2 millénaires, alors ça, je l'ajoute, le théologien a le droit de réfléchir sur les lettres du pape et l'enseignement et les encycliques, il doit le faire même. Ce qui fait que le 2e millénaire s'achève par la proclamation de l'Assomption. Ah ça, je trouve ça très beau. Parce que le 3e millénaire, vous savez, c'est comme les 3 jours dans le sépulcre. Hein. 3 jours dans le sépulcre, c'est assez particulier. Ce n'est pas du tout le compte exact d'un 3 jours. Le Shabbat. Et puis après, 3 jours et 3 nuits. Chaque fois qu'on entend 3 jours et 3 nuits, on pense à l'Église. 1000 ans sont comme un jour. Et 3e jour, il est curieux. C'est assez curieux, c'est assez amusant de voir ça. Amusant dans le sens profond, vous voyez, comme la sagesse qui joue. Faut pas oublier que la sagesse joue. La sagesse n'a pas toujours un ton sérieux du savant. Elle a quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus grand. Parce qu'elle regarde Dieu. Alors, Vatican II, qui est un concile très particulier, il ne condamne personne. Alors que d'habitude, les autres conciles sont là pour la taille du Père. Le Père est fatigué, il ne condamne plus personne. Parce que tout serait condamné. Il ne condamne plus personne. Je me souviens, c'était la réflexion d'un évêque que je connaissais très bien, il est mort maintenant. Il m'a dit, mon père, ça ne vous scandalise pas que ce concile ne condamne rien. Alors je lui dis, moi, Jésus, dans la dernière semaine, n'a plus condamné, il s'est mis sur la croix. Quand l'Église ne condamne plus, elle accepte d'être mise sur la croix. C'est quand même très mystérieux tout ça. C'est-à-dire qu'elle porte. Il y a tellement à porter l'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde. Parce que le Saint-Père a déclaré, et c'est sa première encyclique, le Saint-Père a déclaré avec force que la mission d'Église, c'est la mission du Christ. Substantiellement, c'est la même, mais totalement différente. Et on trouve toujours le chiffre 3, c'est curieux. 2 années de ministère, 3 années de ministère. Et comment le compter? C'est pas très commode. L'Église, 3e millénaire. Et on est dans le 3e millénaire, selon la vision du pape, selon cette théologie de l'économie divine que Vatican II a recommandée. Et c'est beau de voir que Vatican II nous a recommandé d'avoir une vision théologique de l'économie divine qu'on n'avait plus beaucoup pour nous préparer au retour de Jésus. Puisqu'au fond, c'est ça que ça veut dire, si on est un peu clairvoyant. Alors, Vatican II nous donne une vision de l'Église très riche. Les théologiens très classiques et super classiques, vous voyez, il y a des gens super classiques, c'est-à-dire ils veulent aller plus loin que l'Église et être plus intelligents que l'Église, alors ils la corrigent. Les théologiens super classiques disent ce concile, il n'a condamné personne, donc il n'est pas mu par le Saint-Esprit. La définition du Saint-Esprit, c'est de condamner. Mais non, la l'Esprit Saint nous rappelle la parole du Christ. Et c'est ce que fait le Concile. Le Concile est très proche de l'Écriture. Vous voyez la différence avec le Concile de Trente, qui est très proche de la théologie scientifique de Thomas d'Aquin. Alors que là, non. On regarde les textes. Et au fond, c'est ce que le Concile nous demande de faire. Nous devons revenir très fort à l'Écriture. Par là, on rejoint les orthodoxes en revenant à Saint Jean. Par là, on rejoint les protestants en rejoignant Saint Paul. En gros, c'est ça, pour être plus proche d'eux. Parce que c'est vrai, c'est la théologie scientifique que l'Église n'a jamais condamnée. Et au contraire, elle demande de la continuer. Mais elle demande de la dépasser. La théologie scientifique a été pour les orthodoxes et pour les protestants. Une théologie scientifique dite de Thomas d'Aquin, mais totalement décadente. Totalement décadente. C'est pas du tout du Thomas d'Aquin. Il y a des choses très grosses qui sont pas du tout de lui. Cette théologie décadente a été un obstacle, a été un scandale. Alors on voit comment Vatican II rejoint et revient au texte de l'Écriture. Et c'est ce que nous devons faire. Voyez, je ne pense pas du tout vous prendre la théologie. Bon, ce qui est excellent, c'est que dans la théologie scientifique de saint Thomas, il n'y a pas de traité de l'Église. Je trouve ça merveilleux. Alors l'abbé Journet, le cardinal Journet, que j'aime beaucoup, donc c'est une critique fraternelle. Il voulait compléter ce que Thomas d'Aquin n'a pas dit sur un traité de l'Église, de théologie scientifique. Non. Thomas d'Aquin a très bien compris qu'on ne pouvait pas faire un traité scientifique de l'Église, un traité de théologie scientifique de l'Église. Parce que l'Église, c'est un vivant qui est dans la croissance, qui grandit. Et d'abord, toute petite, les actes des apôtres, les premiers pas de l'Église. Et les premiers pas de l'Église, dès que l'Église acquiert un peu d'autonomie, elle va à Rome. Une chose extraordinaire, elle quitte Jérusalem. Alors certains diront que c'est une erreur. Non, c'est l'Esprit Saint. Et puis l'Église grandit. 1000 ans, la croissance de l'Église. Puis les grandes luttes, les grandes divisions. Et troisième pas, vous voyez, il y a trois moments dans l'Église. En théologie scientifique, en théologie de l'économie divine, il y a trois moments. Les éclosions, commençant par les actes des apôtres. L'Église qui connaît les grandes luttes, et ça commence par la séparation de l'Orient de l'Occident. Et puis à l'intérieur de l'Église de l'Occident, toutes ces divisions qui continuent. La dernière division, c'est de vouloir, dans le Nouvel Âge, faire une secte qui réunit toutes les religions. Voyez, l'œcuménisme de l'Église veut, en caricature, dans le Nouvel Âge, c'est la caricature, on veut réunir toutes les religions, et être par le fait même une super religion. C'est très curieux, c'est que partout on sent le besoin d'unifier, on unifie mal. Et le Saint-Père lui-même l'a dit, les années 95 et 96, l'unité de l'Église. Ah, l'unité de l'Église. Donc, si je suis à l'école du pape et en dépendance de lui, vous voyez dans quel sens? Pache oves meas. Et donc, il doit conduire même les théologiens. Des théologiens qui sont contre le Saint-Père, je crois, ont pris des voies sans issue. si au contraire je suis, je dis, le Saint-Père réclame aujourd'hui de regarder l'unité de l'Église. Ah, voilà. Et je commence par là. Je sais que je pourrais dire, je vais regarder la sainteté de l'Église, puisqu'on va aller vers la Toussaint. C'est très vrai. Mais le Saint-Père me demande l'unité. Je dis pas que la sainteté, c'est une voie sans issue. Hein. Non, ne dis pas ça. Mais la sainteté, c'est beaucoup plus difficile. Hein. C'est caché. L'unité, c'est visible. C'est sûr. Le Christ est mort sur la croix sans l'arrachement d'aucun membre. Les membres sont abîmés par la flagellation et la crucifixion. Mais le Christ est entier. Aucun os ne sera brisé. Il n'y a que la blessure du cœur. C'est la seule blessure mortelle. Et c'est significatif pour l'unité de l'Église. Et le mystère du corps mystique, le corps du Christ. Et c'est dans la dernière semaine que cela apparaît dans toute sa force. Le mystère de l'universalité de l'Église, c'est le cœur blessé de Jésus. C'est ce regard de Jésus, sans limite, au-delà de tout horizon. Jésus meurt pour tous les hommes. Et donc l'Église est pour tous les hommes. La mission de l'Église, elle est la mission du Christ. C'est quand même très important de se rappeler ça. Hein. Et il y a la taille du Père. C'est vrai. Jésus aussi a taillé son peuple. Et au chapitre 8, dans Saint Jean, je crois que c'est le moment où la taille va le plus loin. Et c'est important. Et Jésus dit dans le temple, il le dit, votre Père, c'est le démon. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin dans la taille du Père. Ça aussi. Après avoir dit ça, il peut être l'agneau qu'on mène à la boucherie. Il peut se taire. Il a dit. Alors c'est curieux là aussi, hein, et je souligne. C'est curieux, parce qu'au fond, la plus grande attaque du démon, c'est de vouloir remplacer le Père. On tue le Père pour se mettre à la place. Ça, c'est sûr. La paternité de Dieu dans l'Église, elle est capitale. On essaiera de comprendre. Comme la maternité de Marie est essentielle. Et saint Thomas a très bien compris ça, qu'on ne pouvait pas faire un traité scientifique, de théologie scientifique de l'Église, mais que la grâce capitale du Christ était ce qu'on devait regarder en premier lieu. Et on regardait ensuite la manière dont le mystère de la croix, mystère de rédemption, mystère de salut, pouvait se continuer à travers les sacrements. Et je crois que c'est les deux pôles que Thomas d'Aquin nous donne en théologie scientifique sur le mystère de l'Église. La grâce capitale, les sacrements. Et ça, c'est merveilleux. Parce que ça nous fait comprendre que le mystère de l'Église doit être regardé dans une théologie non plus scientifique, mais une théologie du vivant. L'Église, c'est un vivant. Et c'est à travers ce mystère-là du vivant, lié à la grâce capitale du Christ, ayant une surabondance de dons par les sacrements, que nous pouvons saisir à la fois la diversité. cela qu'on doit regarder en premier lieu pour entrer pleinement dans le mystère de l'Église. Je crois qu'avant de regarder les grandes perspectives que nous donne Saint Paul, il ne faut jamais oublier l'expérience de Saint Paul. Et cela, je crois, capital. Je vous relis ce texte des Actes des Apôtres. Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain une lumière venue du ciel « Qui es-tu, Seigneur ?» Et lui, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais sans voir personne. Saul se releva de terre. Et quoi qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. C'est merveilleux pour comprendre ce que c'est que la foi. On le conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. 3 jours durant, il resta sans rien voir, ne mangeant et ne buvant rien. Actes des Apôtres 9, 3, 9. Donc, je crois que c'est très important, ça, pour comprendre l'enseignement de Saint Paul. Il y a une expérience divine liée à un aspect charismatique, c'est sûr. C'est tout un aspect charismatique. Il est terrassé. Quelquefois, on voudrait bien être terrassé par Dieu, n'est-ce pas ? Si vous entrez dans la chapelle tout à l'heure, vous êtes terrassé. Vous assisterez à la messe autrement. Ça, c'est sûr, j'en suis sûr, ça. Parce que vous serez tout tremblant, tout rénové. Vous direz, mais j'ai jamais rien compris. Terrassé. Ça, c'est le coup de foudre. Le Christ le terrasse, l'anéantit en un instant. Il s'impose à lui comme l'unique lumière. Il l'interroge personnellement. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Je trouve ça merveilleux. C'est tout de suite le contact personnel. Vous voyez, l'Église est universelle. Elle est catholique. Catholique, ça veut dire universelle. Mais le mot catholique est catholique, universel, est plutôt logique. Alors, on dit catholique, c'est bon. Mais c'est le même mot, c'est bon. Mais on passe d'une langue à l'autre. Le grec et le latin. Le latin est plus proche de la logique et le grec est plus proche de la révélation. Alors, on voit bien ce contact personnel. À un moment où Saul est en état d'opposition farouche contre Jésus. Jésus amenait le désordre. Et on l'a condamné. Et on a eu raison. Et on doit condamner tous les chrétiens. Ça reste quelquefois comme ça. Qu'est-ce que c'est que l'Église pour certains ? Une secte qui a réussi. J'ai entendu dire ça. Comparativement à l'Ancien Testament. Oui. L'Église assume l'Ancien Testament. Et la première alliance a de la peine à voir son éclatement, son achèvement. C'est très important pour nous, ça. Je crois que Si l'Église demande l'unité, l'œcuménisme, parce que l'œcuménisme, ça fait partie de l'unité, hein. C'est la recherche de l'unité. On doit toujours comprendre que l'unité de l'Église implique son enracinement. Et donc on doit assumer aujourd'hui, d'une manière beaucoup plus directe, tout ce que représente l'histoire de la théologie de l'économie divine par rapport au peuple choisi par Dieu, et comprendre ce que représente ce peuple aujourd'hui pour nous. C'est très important, ça. Je crois que tant que l'œcuménisme n'ira pas jusque-là, on n'avance pas. Parce que il faut trouver le roc. Et le roc commence avec le mystère de la parole de Dieu. Alors, si vous ne regardez pas Abraham, vous ne pouvez pas comprendre le mystère de la parole de Dieu. C'est une chose très très étonnante, ça. Quand vous regardez l'Écriture, hein, et que vous lisez ça, ça commence par la foi. Un mystère de foi. Un mystère de foi en la parole de Dieu. Et Saul de Tarse représente celui qui est romain et qui est juif. Hein? Assez étonnant. Et citoyen romain. Et il le réclame. L'inculturation romaine. Et il est juif. Il est parfaitement juif. Il le sait. Il a conscience de vivre parfaitement toute la loi. Et il est dans une voie de déviation par rapport à la vie chrétienne. Il est dans la rectitude traditionnelle. Et Jésus l'arrête directement pour faire de lui l'apôtre des gentils. Alors c'est pour ça que c'est important de comprendre que tout ce que nous allons dire sur le mystère de l'Église implique cette expérience surnaturel, mystique, directement avec Jésus. C'est la connaissance de la tête de l'Église. C'est la connaissance de Jésus qui me permet de regarder l'Église. Tant que je regarde l'Église à partir de moi, à partir de ma psychologie, à partir des connaissances que j'ai, philosophiques et scientifiques, je ne connais pas l'Église. Elle est étrangère. Si j'ai l'expérience de Jésus, je peux regarder l'Église. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem, tous ces Israélites, ces Juifs, messianiques, tout ça très beau. Et ils sont nombreux, beaucoup plus qu'on ne pense. Ils ne sont pas d'Église, ils sont du Christ. Ils reconnaissent que le Christ est le vrai Messie. Ils ne le disent pas publiquement parce qu'ils auraient trop peur d'être chassés. Le jour où ils seront suffisamment nombreux, ils le diront. Alors à ce moment-là, il y aura comme l'éclatement. Mais c'est Jésus qui se fait connaître, qui se révèle. Je trouve ça très très fort. Et c'est bien le point de départ. La vocation des apôtres, c'est cela. Ils ont connu Jésus. Ils ont un contact avec Jésus. Notre connaissance de l'Église, elle se fait à partir de notre expérience divine dans la foi. souviens, quand j'étais à Fribourg, où j'ai eu pas mal de contacts avec les protestants, forcément. Il y en avait un, entre autres, que j'aimais beaucoup. On était du même âge. Sa mère était française, son père était suisse. Puis sa mère était française, et elle était huguenote. Elle est venue me voir, du reste. Peu de temps, que vraiment arrivé. Elle dit, mon père, je suis huguenote, ne cherchez pas à me convertir. Je dis, mais pourquoi voulez-vous que je vous convertisse? Vous êtes dans l'erreur. Tout de suite, l'aide de défense. Je dis, mais non, je vous aime beaucoup dans le Christ. Je n'ai qu'un seul désir, c'est que vous aimiez plus Jésus. Si moi j'aime plus Jésus et que vous aimez plus Jésus, on sera dans l'unité, madame. Alors elle m'a regardé. Je dis oui, tout à fait. Nous avons ce lien qui est unique et qui est plus grand que tout le reste. Cette foi dans le Christ. Et c'est ça qui permet de regarder l'Église et d'avoir un regard sur l'Église. Je donne un autre exemple. Je m'occupais d'un petit groupe avant le concile à Paris et avant de partir, du moins quand j'étais rentré de Fribourg pendant un certain temps. J'ai vu un petit groupe œcuménique à Paris. C'était tous des fervents de Bruckner, enfin du protestant. Et une protestante connaissait un rabbin remarquable, Heisenberg. Elle me dit, est-ce qu'on peut le faire venir? Je dis, mais je ne demande pas mieux, au contraire, s'il accepte de venir. Et il nous a dit, c'est la première fois que je parle à des chrétiens. À ce moment-là, entre protestants et catholiques, on était un. Et on regardait le rabbin. Et on l'aimait. On n'avait qu'un seul désir, c'est de lui montrer que Jésus l'aimait. On avait le même regard. On était un. Faire œuvre commune avec les orthodoxes, avec ces protestants. Et œuvre commune divine, pas uniquement pour chercher ce qu'il peut y avoir de temporel dans les œuvres caritatives. C'est très bien de faire ça. Ou les léproseries, c'est très très bien. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est de faire œuvre commune au niveau de la foi. Et quand on fait œuvre commune au niveau de la foi, on désire aimer le peuple d'Israël, enlever les barrières, qu'on puisse se regarder, qu'on puisse s'aimer. On a le même Dieu. Yahvé. On a le même grand-père, arrière-arrière-arrière-grand-père, Abraham. Et on a la même Vierge Marie, fille de Sion. Et alors, on a cette possibilité, entre protestants et catholiques, de regarder le peuple d'Israël. On a un regard différent, c'est du reste très important. Oui, je crois qu'on doit avoir ce très grand désir aujourd'hui de cette unité de l'Église. On ne peut pas aimer l'Église sans désirer que l'Église soit une. On ne peut pas accepter ces séparations. C'est intolérable. Parce que Jésus veut l'unité. Et alors si on est vraiment d'Église, on veut l'unité. Et pour ça, il faut aimer l'Église. Et pour aimer l'Église, il faut aimer le Christ. L'Église est aimable pour nous, dans la mesure où on aime le Jésus. Puisque c'est Jésus qui nous la donne. C'est le cadeau du Christ. Alors une fois qu'on a compris que c'était le cadeau du Christ, on n'a pas envie de mépriser ce cadeau. On a envie de bien le connaître. Mais ce cadeau est enveloppé de très beaux papiers multiples, des couleurs différentes selon chaque siècle. Il y a des papiers admirables aujourd'hui en enveloppe. Quelquefois, les papiers sont plus beaux que l'intérieur du cadeau, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, les apparences. Alors, on doit dénouer tous ces papiers pour trouver le cœur, le noyau central, qui est le regard de Jésus sur l'Église. C'est ça qui est Saul, en persécutant l'Église du Christ, persécute le Christ. Ça, c'est formidable. Et c'est le Christ lui-même qui le dit. Je suis Jésus. Alors, c'est la grande vision d'Apocalypse, voyez. C'est la grande vision d'Apocalypse. Au début de l'Apocalypse, vous voyez la vision de la gloire du Christ au milieu des sept églises. Il est présent au milieu des sept églises. Donc, je ne peux pas regarder l'Église sans regarder le Christ. Et je ne peux pas regarder le Christ sans regarder la Trinité. Philippe, Philippe, qui me voit, voit le Père. Et l'Église, elle est dans le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Oui, c'est ça le mystère. Et c'est ça qui fait la complexité de l'Église et en même temps sa simplicité. La paternité dans l'Église, c'est la paternité du Père. Et l'Église est fruit de cette paternité. Il y a le premier fruit de cette paternité, c'est le Fils bien-aimé. Et il y a le second fruit, père et grand-père, comme Abraham. Père et grand-père, il y a Jésus, il y a l'Église. Si je veux avoir un regard divin sur le Christ, je dois le regarder dans la lumière du Père. Si je veux avoir un regard divin sur l'Église, je dois le regarder dans la lumière de Jésus. Alors, je comprends. Et c'est pour ça que je crois que la première chose que nous devons faire, c'est de regarder ces grandes analogies, ces grandes comparaisons que saint Paul lui-même nous donne, et toutes sont le fruit de cette expérience qui a bouleversé sa vie. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et comme c'est curieux, c'est à travers la souffrance du Christ que Saul découvre l'Église. C'est à travers la blessure du cœur de Jésus que nous découvrons l'Église. C'est à la croix que l'Église est née. Elle a été conçue. Comme on peut dire, dès le point de départ, mais elle est née à la croix, à partir de la blessure du cœur de Jésus. C'est la grande vision de saint Augustin, et c'est une vision merveilleuse, parce que ça en revient à la source. Comme c'est un vivant, c'est toujours intéressant de voir sa naissance, hein, son point de départ. La conception, c'est vrai, c'est Marie qui dit fiat. C'est quodam verbum tuum, vous voyez, et c'est très beau. Parce qu'elle dit qu'il me soit fait selon ta parole, donc non pas selon ce que je conçois. Elle ne peut concevoir qu'une seule chose, c'est Jésus, fils du Très-Haut. Or, Jésus, fils du Très-Haut, est tête de l'Église. Et ça, Marie ne peut pas le comprendre tout de suite. Mais, comme elle dit, fiat, secundum verbum tuum, sa maternité va jusqu'à la croix et jusqu'à sa maternité sur l'Église. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, ça c'est le mystère de la foi. La foi va beaucoup plus loin que ce que nous comprenons explicitement du mystère de la foi. La foi nous fait adhérer au mystère. La foi nous fait adhérer à la vérité première qui est le Verbe et le Verbe incarné qui nous révèle son mystère d'amour et le mystère du Fils, le mystère du Père et le mystère de l'Église. Et c'est ce mystère de l'Église